Beauté, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Alliance Plus, bienvenue pour notre émission. Aujourd'hui, je vous propose de parler de l'Amicale des pasteurs français à la retraite. Ils se rassemblent, les pasteurs retraités, pour ne pas rester trop seuls et pour se faire du bien régulièrement en groupe dans certaines régions. Et ils ont créé une amicale des pasteurs français à la retraite. Alors, elle date depuis longtemps, cette amicale, puisque c'est en 1950 qu'un pasteur qui s'appelle Pierre Bosque s'est donné pour initiative de créer du lien entre pasteurs retraités. Car selon lui, je vous le cite, il disait que le pasteur retraité est un être désormais en marge de la vie ecclésiastique, incapable, en raison de l'extrême modicité de ses ressources, d'acheter des livres ou de s'abonner à une revue importante, voué à une solitude démoralisante et réduit au cours de longues et mélancoliques journées à méditer douloureusement sur un passé définitivement révolu. Alors, suite à cette initiative du pasteur Pierre Bosque, qui était très pessimiste et certainement très réaliste à cette époque, donc en 1953, il y a eu la création d'une association donc, qui s'intitule l'Amicale des pasteurs français à la retraite. Et elle avait pour but, à ce moment-là, de créer, bien sûr, du lien entre retraités, mais aussi de créer une caisse de secours pour une aide ponctuelle aux retraités, et puis de leur permettre aussi d'être entendus dans le protestantisme français et de créer un service leur permettant de répondre à différentes missions, à diverses missions. Et après les années 50, bon, la situation des pasteurs retraités s'est quand même bien améliorée, puisqu'il y a eu, ils ont eu droit au régime de la sécurité sociale. Et donc, cette fameuse caisse de secours, en fait, n'a pas franchement été créée, en tout cas, elle n'a pas fonctionné. Et le seul objectif, donc, a été de créer du lien et de maintenir ce lien par deux actions importante, la publication d'un bulletin trimestriel qui s'appelle « Hier et aujourd'hui » et qui fonctionne depuis mai 1953 et toujours jusqu'à nos jours, et de se rencontrer en pastorale nationale. Il y en a eu une en 2011, en 2014, et il y en a eu une en 2022 après le Covid à 7. Et où il y a des rencontres pendant plusieurs jours avec des conférences et des... voilà, ça permet de se retrouver, de se rencontrer. Mais il y a aussi des pastorales dans différentes régions, comme à Nîmes, donc, mais aussi à Montpellier, en Dromardèche, en Pays Cévenol, et puis en Alsace, en Charente-Maritime, en Provence, Côte d'Azur, Paris, région parisienne et sud-ouest. Et chacun essaye de se retrouver d'une façon ou d'une autre et de maintenir une réflexion et un lien fraternel. Vous trouverez toutes ces informations ainsi que les bulletins de l'amicale sur le site de l'amicale des retraités, amicale-pasteur.com. Vous aurez aussi l'occasion de lire beaucoup d'articles de théologie ou spiritualité, éthique, cinéma, littérature. Voilà, vous pourrez vous faire du bien en lisant tous ces articles. Et puis donc régulièrement, les pasteurs retraités et leurs conjoints aussi peuvent se retrouver. Donc ce mercredi 6 mars dernier, ils se sont retrouvés à la maison Samuel Vincent, 27 rue de Saint-Gilles à Nîmes, pour une matinée avec une méditation, une conférence et un repas. Donc, la conférence a été donnée par le pasteur Jean-Luc Blanc sur le dialogue interreligieux avec l'islam au Maroc. Cette conférence a été enregistrée, vous pourrez la trouver sur notre site Radio Alliance Plus dans quelques semaines. Et ensuite, et avant cela, donc une méditation par le pasteur Yves Godemard. Et je vous propose de l'écouter parce que je l'ai enregistré. Et vous pouvez écouter cette méditation qui portait sur un texte du Deutéronome 6, versets 1 à 7. Donc je vous propose de l'écouter maintenant, vous entendrez même à la suite le chant qui était proposé, où tous les pasteurs ont donné de la voix autour avec ce chant « Oh que ces choses belles ». Voilà, donc je vous souhaite une bonne écoute et nous nous retrouvons juste après pour la suite de notre émission.
Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de revisiter un passage du Deutéronome des versets 1 à 6, et plus particulièrement les versets 5 à 6, que vous connaissez bien en principe, ou en tout cas, que vous avez eu l'occasion de lire plusieurs fois.
Les chapitres.
Voici les commandements, les décrets et les règles que le Seigneur, votre Dieu, m'a ordonné de vous enseigner pour que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez bientôt vous emparer. Tu apprendras ainsi tout au long de ton existence à reconnaître l'autorité du Seigneur, ton Dieu, et à obéir aux décrets et aux commandements que je t'ai donnés, pour toi et pour tes descendants, afin que tu jouisses d'une longue vie. Tiens en compte, Israël, et veille à les mettre en pratique. Tu y trouveras le bonheur et tu deviendras un peuple nombreux dans ce pays qui ruisselle de lait et de miel, comme l'a promis le Seigneur Dieu de tes pères. Et le verset important pour moi aujourd'hui, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les paroles que je te donne aujourd'hui demeureront sur ton cœur. On voit ici, quand on prend vraiment le temps d'écouter ce qu'on lit, on voit ici que ce sont toutes les dimensions de notre être que le Seigneur nous demande de mettre en œuvre dans l'amour que nous devons lui porter. Je rappelle rapidement que dans la culture biblique, le cœur ne se rapporte pas seulement à la vie affective et aux sentiments, il est aussi le siège des désirs, de la volonté, de la conscience morale et des choix décisifs. Et par exemple, le livre des Proverbes nous donne un exemple éclairant. Comme on trouve dans l'eau le reflet de son propre visage, ainsi le cœur de l'homme correspond à l'homme. L'âme, c'est le principe vital qui anime le corps. C'est un don de Dieu et l'homme devient âme vivante parce que Dieu a insufflé en lui un souffle de vie. Le fameux pneuma en grec ou roi en hébreu. Quant à la force, c'est à la fois la puissance de l'énergie vitale mais aussi la volonté, le désir. Ainsi, donc, vous le voyez, toutes les dimensions de notre personne, l'amour, l'intelligence, la volonté, le désir, la force, sont convoquées sans exception et convoquées absolument dans un amour totalement exclusif pour l'Éternel. En soi, cette demande peut paraître finalement démesurée, mais elle est, somme toute, légitime. En premier lieu, parce que l'Éternel est la source et le fondement de notre vie. Et rien que pour cela, nous ne pouvons pas ne pas avoir une infinie gratitude à l'égard de notre Créateur. Mais l'Éternel n'est pas seulement la source de notre existence, en particulier dans le cadre de la première alliance avec Moïse, Dieu se révèle comme le libérateur d'Israël avec qui il instaure une alliance indéfectible. Alliance qui sera reprise, révélée autrement par Jésus de Nazareth et qui nous concerne plus directement. Néanmoins, à y regarder de près, l'injonction de l'Éternel concernant l'amour qu'il attend de son peuple n'est quand même pas une mince affaire. Le caractère absolu de sa demande donne le vertige. Car qui peut prétendre être à la hauteur d'une telle injonction ? Car il s'agit d'une injonction. Qui peut raisonnablement affirmer « Moi, j'aime Dieu comme il nous le demande ». Pour ma part, et ce n'est pas du tout de la fausse humilité, pour ma part, je ne suis pas en mesure d'affirmer une pareille chose. Je ne dis pas que le désir n'y est pas, mais entre le désir et finalement son accomplissement, je pense qu'en ce qui me concerne, il y a un immense fossé. Donc finalement, ce n'est pas uniquement ou seulement une question de désir, mais une question pour moi d'incapacité. En effet, la demande du Seigneur est si radicale qu'elle donne aussi le vertige et semble impossible à réaliser. Il en est comme la ligne d'horizon que l'on ne peut jamais atteindre malgré notre volonté, ou d'un objet à porter dont le poids dépasserait notre capacité, notre force. Car, à y regarder de près, nous savons bien que notre amour, nos désirs, notre intelligence, notre volonté, notre force ont d'une part leurs limites et d'autre part ne sont pas constamment consacrés à Dieu et tournés vers lui, mais se dissipent ou se dispersent en de multiples désirs, de multiples occupations, voire de multiples soucis. Face à une telle demande, le doute, la culpabilité, voire l'angoisse, en ont envahi plus d'un et peuvent nous décourager nous-mêmes ou nous paralyser. Le problème, en fait, pour moi, vient du fait qu'il n'y a pas de limite dans cette demande et dans l'effort de sa mise en œuvre. Il n'y a rien qui nous permet de savoir où nous en sommes sur l'échelle de cet amour. Le doute, finalement, est permanent et il est générateur, oui, d'incertitude, peut-être même de découragement. Ou il pourrait être. Pourquoi je dis ça? Parce que, heureusement pour nous, nous ne sommes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la seconde alliance. Et la solution à mes tourments nous est offerte précisément par Jésus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, 34-40, que je vais vous lire. Quand les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les sadducéens, ils se réunirent. Et l'un d'eux, un spécialiste des Écritures, voulut lui tendre un piège et lui demanda « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Et là, c'est là le commandement le plus grand et le plus important. Mais voici le second commandement qui est d'une importance semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Le génie, pour moi, le génie de Jésus, c'est précisément de mettre sur le même plan l'amour de Dieu et l'amour du prochain, tout en subordonnant toutes les autres prescriptions de la loi à ce seul commandement. Il est vrai qu'aimer son prochain comme soi-même se trouve déjà dans le Lévitique. Jésus ne l'a pas inventé. Mais Jésus fait une révolution copernicienne car il interprète toute la loi de Moïse et la récapitule en deux affirmations pour en faire un seul et même commandement. Par la même occasion, l'amour exclusif que l'Éternel attend de nous trouve maintenant son terrain d'application dans l'amour de notre prochain. La loi du Seigneur n'est plus un code de bonne conduite fondé sur des prescriptions, des commandements, des décrets, des règles à respecter à la lettre, mais elle redevient ce qu'elle aurait dû être toujours, à savoir une dynamique de l'amour envers le Seigneur et le prochain, les deux étant irrémédiablement liés comme le pile et le face d'une pièce. En ce sens, de par sa vie jusqu'à sa mort, Jésus peut bien dire qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. De la même façon, il est maintenant possible de connaître l'amour que nous portons au Seigneur par la mesure, en quelque sorte, de l'amour que nous pouvons porter à notre prochain. Et pour cela, nous avons justement aussi l'exemple et l'enseignement de Jésus comme guide de notre vie, de nos actions, de nos choix. On pourrait en rester là, mais ce serait aller un peu vite en besogne et oublier une troisième dimension de l'amour tout aussi importante que celle envers Dieu et notre prochain. Quand Jésus nous exhorte d'aimer notre prochain, il prend bien soin de préciser « comme nous-mêmes ». Cette précision est la clé de voûte de l'ensemble. Elle est, j'aurais envie de dire, le troisième pied d'un escabeau qui lui donne sa solidité, sa stabilité. Le « comme nous-mêmes » signifie et implique deux choses. D'une part, Jésus nous exhorte d'aimer notre prochain à la mesure de notre propre amour, ni plus, ni moins, vous le noterez, ce qui n'est pas un détail sans importance, ce ni plus ni moins. D'autre part, cette exhortation, cette proposition implique que nous ayons aussi de l'amour pour notre propre personne. Car sans amour pour soi, d'après cette règle, pas d'amour pour le prochain. Bien entendu, il ne s'agit pas de narcissisme, d'égocentrisme, d'orgueil ou de surestime de soi. Autant de dérives, évidemment, en contradiction et incompatibles avec l'amour de Dieu et du prochain. Non, il s'agit ici de charité envers soi-même. Il s'agit ici d'assumer de se voir sans voile, sans phare, tel que l'on est. On sait que parmi les êtres les plus orgueilleux, les plus assoiffés d'amour propre, on trouve ceux qui se sentent mal avec eux-mêmes, ceux qui se dénigrent secrètement. Ce moment infiniment difficile de la rencontre avec soi-même exige donc une mise à nu. Car notre Seigneur nous demande d'avoir autant de compassion, autant d'indulgence et de miséricorde, autant de capacité à exercer le pardon à l'égard de notre prochain qu'à l'égard de nous-mêmes. Or, vous le reconnaîtrez, j'imagine, c'est certainement une des choses les plus difficiles à réaliser. Pourtant, le plus grand commandement inclut aussi cela. Par ailleurs, Jésus nous demande d'aimer notre prochain, mais pas seulement nos amis. Il nous rappelle que même les païens aiment leurs amis, et il nous exhorte d'apprendre à aimer tous ceux pour qui nous n'avons pas naturellement de sympathie, qui nous posent des problèmes, voire même ceux qui veulent du mal pour nous. Or, nous savons tous aussi que nous avons des ennemis intérieurs qui nous tyrannisent et qui sont autant d'obstacles à notre vie. C'est précisément contre ces ennemis intérieurs qui nous empêchent de vivre pleinement de l'amour de Dieu que le Seigneur nous exhorte de nous aimer. Et ce serait, réfléchissez, lui faire injure que d'être sourd à cet appel, alors même qu'il a tant aimé le monde et qu'il est mort pour notre salut, précisément par amour pour l'amour, pardon, par amour pour chacun de nous. Notre Seigneur ne veut pas de sacrifice, de mortification, de culpabilité, d'autoflagellation. Il désire des hommes et des femmes debout, libérés et pris de miséricorde, de justice et de charité. C'est pourquoi il nous aime. Pardon. C'est parce qu'il nous aime que nous avons le devoir de nous aimer aussi. On peut s'aimer dans l'humilité, le respect de soi-même et une juste estime de soi. Mais cet amour, finalement, découle de l'amour de Dieu qui nous a aimés le premier et qui a été pleinement manifesté dans notre histoire collective et personnelle en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous aimerons d'autant mieux le Seigneur et notre prochain comme nous-mêmes de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et juste pour finir, encore une chose que je voulais vous dire initialement, dans l'Ancien Testament, dans le passage du Deutéronome que je vous ai lu, il est dit que si on respecte tous ces décrets, ces commandements, etc., le peuple d'Israël jouira d'une longue vie. Ce qui est intéressant de noter, c'est la transposition qu'en fait Luc tout en reprenant finalement ce passage où la question de la longue vie se transforme en vie éternelle. Et je termine en vous lisant encore ce passage de Luc qui reprend les mêmes thèmes que j'ai lu tout à l'heure. Un spécialiste des Écritures intervient alors pour tendre un piège à Jésus. Il lui demande « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans notre loi ? Comment la comprends-tu » Il répond « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit alors « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Merci.
Oh, que ce chant de paix vient de te louer, Seigneur, de chanter ton honneur, le cœur des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité, quand la nuit va paraître. Tes fruits chaque saison combleront. sa vieillesse.
Nous reprenons notre émission. Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus 103.2 et vous savez que vous pouvez nous écouter en DAB+ ou bien aussi sur notre site par l'intermédiaire des podcasts. Je vous ai présenté l'amicale des pasteurs français à la retraite et puis vous avez pu écouter Yves Godemard qui a donné la méditation mercredi 6 mars dernier lors de la rencontre de la pastorale des retraités de Nîmes. Et maintenant, pour terminer cette émission, j'aimerais vous rappeler la conférence qui sera donnée donc vendredi 15 mars à 19h. Et comme si vous écoutez mon émission à 18h15, vous avez juste le temps de vous précipiter à la maison du protestantisme pour écouter Dany Nocquet, professeur de théologie et professeur d'Ancien Testament, maintenant à la retraite lui aussi, qui était professeur à l'Institut protestant de théologie à Montpellier et aussi doyen, et qui a écrit un livre qui s'intitule « Israël a aimé ses ennemis ». C'est ce livre qu'il va nous présenter à partir de l'intitulé suivant « Dépasser l'inimitié, une étonnante réalité dans l'Ancien Testament ». Alors, cette conférence donc va être donnée à 19h, vendredi 15 mars. Elle sera suivie d'un temps d'échange autour d'une collation et elle rentre dans les journées 2024 de l'Église universelle organisée par l'Église protestante unie de Nîmes. Et puis, pour terminer encore complètement cette émission, je vous rappelle la foire aux livres qui se tiendra la semaine prochaine, 21, 22, 23 mars, et toute la journée, vous pourrez avoir plein de livres à petit prix, et même grignoter, manger et rencontrer des personnes intéressantes aussi dans les rayons de ce petit temple. Voilà, je vous souhaite maintenant un bon week-end et une bonne semaine. À très bientôt.
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus.